Chapitre 36. Pourquoi certains hommes gravissent-ils des montagnes? Simplement parce que la plupart des autres ne les gravissent pas. Message gravé sur un fanion anonyme planté au sommet de l'Everest. C'est comme un cycle qui reprend, un cauchemar qui ne trouve aucune porte pour se refermer. Noir, froid, mal de crâne. Et immobilité. On prend les mêmes et on recommence. J'ouvre, ferme les yeux, c'est pareil. L'obscurité est absolue. J'essaie de bouger, impossible. On dirait qu'un gigantesque boa constrictor me broie la poitrine. Je peine à respirer. Gonfle mes poumons dans une grimace, c'est douloureux. Un cliquetis de chaîne accompagne chaque mouvement de ma cage thoracique. Mes bras sont plaqués le long de mes cuisses, mes jambes serrées l'une contre l'autre. Écrasées plutôt. Comprimées, pour être plus exact. Mon épaule droite me brûle. Je me rappelle la chute dans le puits, la casserole qui se dirige vers mon visage, la déconnexion. Je tente de me redresser, sans succès, de rouler sur le côté. Je sens alors tout de suite contre mes épaules une masse énorme qui empêche toute reptation à gauche comme à droite. Un cercueil ne ferait pas mieux. Je crois comprendre. Mon corps est complètement enroulé, momifié dans ma chaîne et cerné de rochers disposés en muraille. Très vite, une image me revient à l'esprit. Celle de ces deux demi-cercles plaqués contre la paroi que Michel a fabriquée avec ses pierres. Des geôles. Je tends le cou. Le seul geste qui me soit autorisé. Mon crâne se décolle du sol. Une douleur intense me brûle les omoplates et le dos. Je n'y vois rien. Farid ! Jonathan ! C'est toi, Jonathan ? Dans l'obscurité, la voix est paniquée, chargée de peur. Je devine que Farid et moi, nous sommes tout proches l'un de l'autre. Un mètre à peine. Il gémit. Je crois qu'il va me faire du mal. Me torturer, c'est à moi qu'il en veut désormais. Chacun notre tour, on va morfler. Autour, les gouttes d'eau continuent leur petite symphonie aqueuse en s'écrasant au sol. Le froid poursuit son travail sur mon visage glacé. Le puits gémit.
Depuis combien de temps t'es réveillé?
J'en sais rien. Une demi-heure, une heure. Je crois que sous la chaîne, je suis tout nu. Il m'a entièrement déshabillé. Je sens plus rien. Plus mes bras, ni mes jambes. Rien. C'est comme si je flottais déjà. Mes pieds, ils dépassent dans le vide. J'arrive plus à les bouger, je te jure. Je vais crever de froid, crever tout court. Partir d'ici une bonne fois pour toutes, j'en peux plus.
Nu. Seigneur. Je lui donne pas deux heures.
Bien contre mon gré, ma respiration s'accélère et j'ai de plus en plus mal. Je me vois agoniser et piégé entre ces maillons. Nous avons bien mangé et bu énormément d'eau. Combien de temps me faudra-t-il pour mourir? Combien d'heures, de nuit? Tout s'accélère sous mon crâne. Et si Michel avait creusé une brèche dans la galerie pour se faire la malle? Et si sa tête avait explosé et qu'il gisait là-bas dans le noir? Je crie alors son prénom. J'essaie de penser à Françoise, à ma fille, de sentir leur parfum. Je n'y parviens même pas. Je dois à tout prix me calmer. Je répète la liste des plus hauts sommets. Écoute mon sang circuler dans mes artères. J'avale ma salive et dis « La fois où Michel t'a surpris. » Mon chien était en train de dévorer une lettre que j'avais rédigée à ma femme et laissée sous son oreiller. Et maintenant ce sac remontait du puits. C'est toi, n'est-ce pas?
Non, j'ai rien à voir avec tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as trouvé dans le sac?
De l'argent. Beaucoup d'argent. C'est toi le voleur?
De l'argent, tu dis? Mais pourquoi j'aurais ramené de l'argent ici? T'es complètement taré ou quoi? Essaie plutôt de voir comment on peut se sortir de ces chaînes au lieu de m'accuser.
La vérité, Farid. C'est peut-être la vérité que veut Michel.
La vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est que toi, ta femme et vos histoires de leucémie, vous m'avez foutu dans la merde. C'est ça, la vérité.
Il se perd dans une quinte de toux. La maladie revient le cueillir. Elle est désormais descendue au fin fond de ses bronches. Au moins, sa mort sera plus rapide que la mienne. Je sursaute brusquement. La lumière vient de jaillir. Je l'ai en plein dans la gueule. Entre deux rochers, je peux apercevoir Michel assis à l'indienne, les poings regroupés sous le menton. Il se tenait là depuis le début, silencieux, à l'écoute. Je dois rêver, et même si mes yeux fatigués n'y voient plus grand-chose, je devine sur son dos le reste du pelage de mon chien. Aplati, la gueule de Poc tombe sur le dessus de son masque rouge de sang, et la fourrure complètement lacérée dévale jusqu'au bas de ses reins.
On dirait un sinistre chaman. Devant lui se trouve le réchaud en train de dilapider son gaz, la pierre tranchante, les couverts en plastique. Je reviens sur la pierre tranchante et plisse les yeux. Je ne suis pas bien sûr. C'est pas possible. À ses côtés semblent s'étaler de petites lamelles de chair semblables à des frites aplaties. De la chair humaine, c'est sûr. Il fixe froidement Farid.
Et moi, je crois que la vérité, elle est encore dans ta bouche.
Je distingue le visage transi de Farid, plaqué lui aussi entre deux rochers.
T'as plus toute ta tête, réplique Farid en claquant des dents. Faut que t'arrêtes ça tout de suite, avant que ça tourne mal. Laisse-nous sortir d'ici.
Le beurre se cambre en apercevant les morceaux de chair.
Michel, cette viande, c'est...
Il redresse la tête, tente de s'agiter en vain.
Dis-moi ce que c'est.
Son menton touche les maillons. Il cherche à apercevoir son propre corps dénudé à travers le métal. Michel aiguise la pierre tranchante en la frottant contre un rocher.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Sans doute la meilleure depuis qu'on se trouve ici. J'ai réussi à creuser une brèche dans les éboulements. Un trou par lequel on peut se faufiler. Derrière, il y a un boyau qui monte en pente douce. C'est évident qu'il permet de foutre le camp. Mais le petit problème, c'est que je suis le seul à pouvoir passer. Avec une énorme inconnue au-dessus de ma tête. Est-ce que je vais vraiment exploser ou pas?
Il s'approche de Farid les deux mains au sol.
Je regrette le bon vieux temps, tu sais. Celui où... La plupart des abattoirs n'étaient pas privatisés. On pouvait encore y faire ce qu'on voulait. Maintenant, tout est trop surveillé, réglementé, il n'y a plus de plaisir. C'est marrant, t'es les yeux bleus vifs comme les porcs. Je me suis toujours surpris à lire dans ces yeux-là un soupçon d'intelligence et de curiosité, avant que la peur les gagne quand ils rentrent en salle d'abattage. Tu devrais voir ce moment de terreur absolue, c'est quelque chose d'inoubliable dans la vie d'un homme. T'as bu, stop tout avant que... Avant que quoi? Avant que t'appelles tes potes ou que la police vienne m'interpeller?
Il se lève les bras écartés.
Quelqu'un a vu la police quelque part? Qui peut me dire ici ce qui est bien et ce qui ne l'est pas?
Il pointe l'index vers Farid.
J'ai besoin de savoir si je peux sortir d'ici seul. T'as la réponse, Farid?
Le jeune ne répond pas.
Il y a plusieurs méthodes pour que tu parles, des méthodes plus ou moins longues. Ici, bizarrement, on a tout le temps. Mais c'est paradoxalement le temps qui nous manque le plus, alors je vais devoir faire au plus rapide, et donc au plus douloureux.
Il s'empare de la fourchette en plastique et la plonge dans la flamme. Ça crépite. Il me regarde à présent.
Fallait que je t'immobilise aussi, grand chef. Tu m'aurais pas laissé agir sinon. Tu sais, je ne ferai jamais de mal à un innocent. Mais Farid, il est pas innocent. Faut qu'il parle et qu'il nous dise ce qu'il y avait dans le coffre de la fourgonnette. Ton chien non plus, il était pas innocent. Il volait ce qu'il ne lui appartenait pas. Je ne fais que rendre justice.
Arrête tout de suite, libère-nous. Nous allons trouver une solution grâce à cette brèche. Ne franchis pas une nouvelle barrière.
Des barrières? T'as pas encore remarqué qu'il y en avait plus depuis longtemps? Et puis je serais curieux de la connaître, ta solution.
Le plastique se met à fondre. Michel tourne le couvert jusqu'à former une espèce de boule incandescente. Les fils de sa cicatrice luisent étrangement, conférant à sa main une allure synthétique monstrueuse. Farid peine à parler tant sa voix tremble.
Qu'est-ce que tu fais?
Michel se retourne soudain en sursautant, le masque orienté vers le plafond. Il pose sa fourchette et se gratte les épaules dans un frisson.
Faut que je sorte d'ici, très vite avant que...
Il se fige, le regard vers ses pieds. Le moment pendant lequel il ne bouge pas est interminable. Soudain, il se penche sur Farid et enfonce la sucette brûlante entre deux maillons au niveau de la poitrine. Un abominable crissement de chair grillée me vrille les tympans. Farid se met à hurler. Je me débats dans mes entraves jusqu'à ce que la douleur me torture.
« Arrête! Arrête, bon Dieu !»
Michel reste debout, les jambes écartées. Il halète fort. Je baisse les paupières, l'image de la fourchette qui s'abat est fichée en moi, indélébile. Je dois réagir, tout faire pour arrêter le massacre. Impossible avec l'entrave. Il ne me reste que ma voix qui crie et se bat. Michel ne m'écoute pas. Dans son univers de folie, je n'existe plus.
Il faut que tu parles. Ça sert à rien de résister. Je vais te tuer, Farid.
quoi qu'il advienne, je vais te tuer. »
Farid sanglote, tousse, s'étrangle. Ses globes oculaires roulent, il n'est pas loin de l'évanouissement. Je m'agite comme un diable et hurle, mon impuissance me torture, je revis de plein fouet l'épisode de la mise à mort de Poc. Lentement, le jeune revient à lui. Il continue à clamer son innocence dans un râle à peine audible, tandis que Michel lui jette des liasses de billets sur le visage.
« Ce fric, qu'est-ce que c'est ?»
Farid bascule un peu, le manche de la fourchette reste collé à sa peau. Il crache un filet rougeâtre, il a dû se mordre la langue ou les joues jusqu'au sang. « J'aimerais être mort, 10 fois mort. » Michel demeure imperturbable.
« Très bien. Je vais m'intéresser à ta petite gueule cette fois. »
Il s'empare de l'autre fourchette et la passe à travers la flamme vorace.
« Je vais te crever. Je te jure qu'après t'avoir enfoncé tout ça sur la tronche, je vais te découper en morceaux si tu parles pas. Et je me fabriquerai des bottes avec ta peau. »
Les yeux de Farid s'écarquillent. Il se met à hurler. À travers les chaînes, je vois ses ongles se rétracter sur le métal. Michel se retourne encore, brandit des poings dans le noir, se gratte violemment dans le cou en grognant. Le feu rayonne sur son épouvantable masque maculé. Le plastique de la fourchette se met à couler. Michel tourne le poignet comme s'il cuisait des chamallows au bout d'une brochette. Je suis persuadé qu'il apprécie ce moment, qu'au fond de lui-même, il aime inculquer la souffrance.
Tu préfères l'œil droit ou celui de gauche? Les deux?
Je voudrais pouvoir détourner la tête, ne pas regarder. Je voudrais à ce moment ne jamais avoir existé. Farid réussit à bafouiller.
Je t'ai sauvé la vie. Tu te rappelles la stalactite? Tu te rappelles? Tout ce que tu as fait, c'est prolonger mon calvaire.
Il se lève et approche le morceau ardent du visage de Farid. Le jeune explose en larmes. Michel n'interrompt pas son geste. À quelques centimètres seulement de l'œil.
C'est bon. Je vais tout te raconter. Arrête. Arrête. Par pitié.
Michel hésite. Il respire comme un fauve. Si l'instinct l'emporte, Farid est fichu. Alors je hurle encore, l'exhorte à écouter Farid. Il se tourne dans ma direction, me fixe longuement, avant de revenir vers sa victime.
« On t'écoute, et t'as tout intérêt à ne rien oublier.